Bienvenue dans le F Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée.
Avec elle, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche. Nous poursuivons cette série de rencontres avec nos deux invités du jour, Éléonore Tournier et Caroline Martin. Avec elles, nous allons parler de pilules contraceptives et de thromboses, de prescription de contraception et de suivi médical, de facteurs de risque et d'implication des hommes. Car aujourd'hui encore, la charge de la contraception, tout comme les risques qui y sont associés, est assumée par les femmes dans la quasi-totalité des couples. En 2015, Éléonore Tournier a 29 ans quand elle est victime d'une embolie pulmonaire liée à sa prise de pilules. Des caillots de sang ont migré de sa jambe jusqu'à ses deux poumons. Journaliste, elle s'empare du sujet et mène l'enquête pour comprendre ce qui amène des jeunes femmes en pleine santé, dans la vingtaine, à vivre ce type d'accident. De son côté, Caroline Martin est médecin référente des 9 centres de planification du département de Maine-et-Loire. Elle vient apporter son éclairage et son expertise de médecin, habituée à prescrire un mode de contraception aux femmes et jeunes filles venues consulter en centre de planification. Pour commencer, Éléonore Tournier, pouvez-vous nous raconter votre parcours de prise de contraception ?
Donc moi, j'ai commencé à prendre la pilule vers l'âge de 15 ans, en tout cas peu avant mes 16 ans, au moment de mes premières relations sexuelles. À l'époque, je me souviens en fait avoir vu ma tante et lui avoir dit « je veux prendre la pilule » parce que pour moi, c'était le moyen de contraception pour les femmes. Puis ensuite, ma mère m'avait pris rendez-vous chez son gynécologue qui m'a effectivement prescrit une pilule. Sauf que j'ai eu des effets secondaires en fait assez rapidement par rapport à la pilule. Hein. Donc c'était des maux de tête, ou alors de la prise de poids, ou alors des changements d'humeur. Enfin, ça m'allait pas forcément bien. Mais pour autant, en fait, mon gynécologue m'a prescrit différentes pilules en fait. Donc au final, j'en ai eu 7. Donc dans le cadre de ma dernière prescription de pilule, donc 4 mois plus tard, j'ai fait donc une phlébite. Une phlébite, c'est un caillot de sang en fait qui bouche une veine au niveau du mollet. Ensuite, ce caillot a migré au niveau de mes poumons. Donc là, c'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire.
On y reviendra à ça tout à l'heure. Du coup, vous disiez 7 pilules, donc ça c'est étalé sur...
Bah de mes 15 à mes 29 ans. Quand j'ai eu mon accident, j'avais 29 ans. Sachant qu'entre-temps, j'avais fait une pause, parce que donc, je ne supportais pas la pilule, et puis j'avais plus de relations sexuelles suite à une rupture. Et au moment de cette pause, j'ai eu là des effets secondaires d'arrêt de la pilule. Donc acné, chute de cheveux. Et je me souviens être allée voir un dermatologue qui m'avait dit, en fait, ce qui serait bien, c'est que vous repreniez la pilule pour résoudre vos problèmes de peau et vos problèmes de cheveux. Quand j'ai eu de nouveau un partenaire, bah, j'ai repris la pilule. Alors, juste avant mon accident, j'avais des migraines, en fait. J'avais des formes aux têtes. Et en fait, j'en avais depuis assez longtemps, des migraines avec aura. J'avais demandé à mon gynécologue de me poser un stérilet, en fait. Je voulais arrêter la pilule. Et à ce moment-là, il m'avait dit que c'était déconseillé, en fait, aux femmes qui n'avaient jamais eu d'enfant et que je pouvais, en fait, développer une infection et devenir stérile. Donc, on était reparti à nouveau sur une pilule. Et donc, après 4 mois plus tard, j'ai fait donc une phlébite.
Caroline Martin, je rappelle donc que vous êtes médecin référente des centres de planification du Maine-et-Loire. Il y en a donc 9 dans le département. Avant toute chose, on va peut-être commencer par rappeler quelles sont les missions de ces centres, en fait, avant de partir sur les questions de pilules et de prescriptions.
Donc les centres de planification, c'est des centres qui sont ouverts à tous, qui peuvent être gratuits, anonymes, pour les patients qui se posent tous les sujets qui ont attrait à la vie sexuelle et affective, donc que ce soit le dépistage des IST, infections sexuellement transmissibles, le suivi de contraception, suivi de grossesse, les IVG, donc interruption volontaire de grossesse, les violences conjugales, violences faites aux femmes.
Suite au récit de l'expérience d'Éléonore Tournier sur sa prise de pilule, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe une première consultation pour une prescription de contraception dans un centre de planification ?
Alors les premières consultations, la première demande de contraception, c'est une consultation longue, qu'il faut prendre le temps avec la patiente. Nous, on s'organise dans les centres de planification pour qu'elle soit vue d'abord par la conseillère conjugale, qui peut lui présenter toutes les méthodes de contraception qui existent, parce qu'effectivement, souvent, les patientes viennent avec un souhait de pilule, et donc on reprend avec elle toutes les contraceptions possibles. On discute avec elle de son projet, de son mode de vie, de ce qui pourrait lui correspondre. Et donc, du coup, avec la conseillère, elle s'oriente plutôt sur un type de contraception. Et ensuite, dans un second temps, on les voit en consultation, donc soit par le médecin, soit par la sage-femme. Donc, on rediscute avec elle de son choix de contraception. On vérifie s'il n'y a pas de contre-indication à cette contraception, pour ensuite pouvoir la mettre en place. Donc, revoir avec elle les effets secondaires possibles, le mode de prise. Voilà. Et ensuite, on les revoit en fonction du mode de contraception. Si on part sur une pilule, on les revoit 3 mois après pour refaire le point avec elle sur comment ça se passe depuis la prise de pilule. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'elle la tolère bien ou pas? Reprendre avec elle les oublis possibles et quand sont survenus ces oublis et comment faire en cas d'oubli.
Et justement, quand vous parlez de consultation longue, ça veut dire, vous disiez 1 heure, je crois.
Alors nous, on compte 2 fois une demi-heure en centre de planification. Mais après, c'est l'organisation qu'on a. Mais cette prescription peut se faire aussi bien par le médecin généraliste que par le gynéco. Et donc maintenant, au niveau de la sécurité sociale, il y a une cotation, consultation longue pour une première demande de contraception, pour permettre justement au médecin de prendre le temps d'accompagner la patiente dans son choix.
Donc si on le précise quand on appelle pour prendre rendez-vous, que c'est pour une prescription de pilule et une première prescription d'autant plus, le médecin peut
prendre plus de temps.
Concernant la pilule contraceptive spécifiquement, quels sont les facteurs de risque auxquels les médecins et les gynécologues doivent être attentifs? Vous en évoquez quelques-uns là tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez être plus précise?
Alors on sait que la pilule peut augmenter un petit peu le risque de faire ce que vous appeliez une thrombose, donc un caillot qui peut être dans une veine, donc une phlébite ou une embolie pulmonaire, ou même une thrombose artérielle, donc plutôt sur le versant infarctus ou accident vasculaire. Donc c'est des risques qui bien heureusement sont très rares, mais qui sont quand même existants, et en fait on tient compte de l'ensemble des facteurs de risque, parce qu'on sait que c'est en additionnant tous ces facteurs de risque que forcément le risque est plus important. Donc on tient compte à la fois de l'âge de la patiente, du tabac, parce qu'effectivement on sait que une patiente qui fume, ça augmente le facteur de risque. On tient compte des antécédents familiaux au premier degré, donc c'est-à-dire parents ou frères et sœurs, qui ont fait un accident thromboembolique, artériel ou pulmonaire. On considère avant 65 ans chez les femmes et 55 ans chez l'homme. On tient compte aussi de dyslipidémie familiale, c'est-à-dire de problèmes de cholestérol dans la famille. Et des migraines, on tient compte également des migraines avec aura, c'est-à-dire des migraines accompagnées. Pas uniquement les maux de tête un petit peu dites, céphalées-tension, on fait bien décrire à la patiente ce que c'est que ces maux de tête. Et ce qu'on appelle migraines avec aura, c'est des migraines qui sont accompagnées avec des troubles ophtalmiques, avec des vertiges ou des choses comme ça.
Vous, votre expérience a été un peu différente, donc Éléonore Tournier, vous n'avez pas eu en fait ce niveau d'information visiblement lors de vos rencontres avec le médecin qui vous a prescrit la pilule, alors même que vous cumuliez plusieurs de ces facteurs de risque. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces facteurs de risque qui étaient les vôtres?
Donc moi j'avais des migraines avec aura en fait, que j'avais fait assez jeune et qui étaient revenues au moment où, donc je dirais jeune, j'étais à l'école primaire, donc 8-9 ans, on avait décelé à l'époque que j'avais des anticorps antiphospholipides, donc ce sont des anticorps qui épaississent le sang et qui coagulent en fait le sang. Donc j'avais eu un traitement anticoagulant pendant 2 ans et ils avaient fini par disparaître.
Qui sont du coup un facteur de risque supplémentaire important, ouais, oui, c'est oui. Je vois réagir Madame Martin.
Effectivement, les anticorps antiphospholipides, on sait que c'est des patients qui ont plus de risque de thrombose, donc c'est des patients qu'on va plus surveiller et on va effectivement éviter de les mettre sous œstroprogestatif.
Dans mon cas, ça n'a pas empêché qu'on me mette sous œstroprogestatif.
Donc ça, c'est un des types de pilules contraceptives qu'on peut...
C'est ce qu'on appelle les 3e et 4e génération, en fait. C'est les pilules, quand il y avait eu le scandale, comme on l'a surnommé le scandale des pilules à l'époque, avec la plainte de Marion Lara, c'était ce type de pilule, en fait, qui génère un risque supplémentaire, en fait, qui majore le risque de faire des thromboses.
On y reviendra plus précisément tout à l'heure. Et donc, ça a fini par avoir en fait des conséquences graves, le fait d'ignorer ces facteurs de risque.
En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que ma maman se souvenait évidemment de mon passif et se souvenait d'ailleurs que le médecin à l'époque, quand j'étais petite, lui avait dit « il faudra faire attention au niveau de la contraception ». Donc, j'en avais discuté avec mon médecin gynécologue qui m'avait présenté les pilules de 3e et 4e génération comme plus légères et comme mieux tolérées, avec moins d'effets secondaires, bizarrement. Donc après, je me suis rendu compte que clairement c'était l'inverse et que j'aurais dû avoir des pilules moins, enfin, des deuxième génération. Et donc, en fait, il n'a pas pris la mesure, selon moi, du risque. Et à l'époque, c'était mon médecin. Donc, je lui faisais confiance. Et surtout, en fait, j'avais cette impression que ça n'arrive qu'aux autres et que c'est très rare. Voilà, on dit c'est très rare. Donc, c'est très rare, ça ne m'arrivera pas. Et puis, il y a le côté, en fait, médecin en qui on a confiance. Il me suivait depuis mon adolescence, donc depuis 14 ans. Donc voilà, je lui ai fait pleinement confiance. Et quand je suis retournée le voir après mon accident thromboembolique, parce que là, j'avais discuté avec des personnes qui m'ont dit, en fait, vous auriez jamais dû avoir la pilule. Voilà, il m'a expliqué que, bah si, parce qu'au moment où il m'a prescrit ces pilules, je faisais plus de migraines à l'instant T, en fait. Donc c'était... je pouvais prendre la pilule, ce qui n'est pas totalement vrai. À partir du moment où on a ces antécédents de migraine avec aura, la pilule est fortement déconseillée.
Et d'autant plus qu'il y avait eu ces facteurs de coagulation qui n'étaient pas classiques en tout cas, et donc qui étaient un risque supplémentaire. Et Caroline Martin, est-ce que vous pourriez nous faire un point sur les différents types de pilules? Parce que tout à l'heure, là, on parlait de pilules de deuxième, troisième, quatrième génération. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait quels sont ces types de pilules possibles quand on est en demande de prescription?
En fait, il y a deux grands types de pilules. Il y a les pilules œstroprogestatives, qu'on prescrit plutôt en première intention, et les pilules avec des progestatifs seuls. Et celles qui ont un sur-risque, ce sont effectivement les pilules œstroprogestatives, mais on parle de pilules de deuxième, troisième et quatrième génération par rapport au type de progestatif. Parce qu'effectivement, on pensait que la troisième et quatrième génération avaient moins d'effets secondaires, mais en fait, on se rend compte que le risque de thrombose est un petit peu plus élevé avec une troisième et quatrième génération qu'avec une deuxième génération. On sait que le risque est à peu près de 1 sur 10 000 de faire pour une patiente en âge de procréer de faire une thrombose. Et que ce risque est plutôt de l'ordre de 2 sur 10 000 avec une pile de deuxième génération. Et on est plutôt sur 4 sur 10 000 avec une pile de troisième et quatrième génération. Donc maintenant, les recommandations de la CHAES, donc qui est la haute autorité de la santé, sont plutôt claires pour dire qu'il n'y a aucune raison de commencer par une pilule de troisième et quatrième génération. Si le choix contraceptif s'oriente vers une pilule œstroprogestative, ce qui n'est pas obligatoire parce que je le rappelle que ce n'est pas la seule méthode de contraception, il en existe d'autres, mais si le choix est fait d'une pilule œstroprogestative, on commence par une deuxième génération. Il n'y a aucune raison de commencer par une troisième, quatrième génération. Ensuite, on réévalue la tolérance au bout de 3 mois et on fait notamment une prise de sang pour vérifier le sucre et le cholestérol puisqu'on sait que les pilules œstroprogestatives peuvent modifier le métabolisme du sucre et du cholestérol. Donc on doit les vérifier entre 3 et 6 mois après la première prise de pilule. Et on en profite pour refaire le point et c'est effectivement la patiente décrit de l'acné, une baisse de libido, enfin des choses qu'elle met en lien avec la pilule. On peut rediscuter avec elle de sa contraception, éventuellement passer à une pilule de 3e ou 4e génération qui par rapport à l'acné peut être plus efficace, en tout cas avoir moins d'effets secondaires sur l'acné, mais tout en ayant à l'esprit les autres facteurs de risque éventuels et en informant la patiente qu'effectivement le risque de thrombose est plus important. Donc c'est une discussion qu'il faut avoir avec la patiente et certaines patientes vont dire bah, moi voilà, je préfère quand même avoir ce type de pilule. Donc après, quand il n'y a pas de contre-indication, on est sur un sur-risque, on n'est pas sur une contre-indication. On est d'accord qu'une patiente qui a une contre-indication à la pilule, on ne lui prescrit pas tout simplement.
Oui, et vous allez lui proposer des alternatives à la pilule. Donc ce sont ces pilules de 3e et 4e génération qui ont été pointées du doigt lors de la médiatisation du cas de Marion Lara, dont vous parliez, Éléonore, tout à l'heure. C'était en 2010. Cette jeune femme a fait un accident vasculaire cérébral massif à l'âge de 18 ans, en 2006, qui la laisse lourdement handicapée. Elle a obtenu en 2012 la reconnaissance du lien entre son AVC et sa prise de pilule par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Depuis, 130 plaintes ont été déposées pour des accidents similaires au pôle de santé publique à Paris. Une association de victimes, l'AVEP, milite pour la reconnaissance du lien entre ces différents accidents de thrombose qui englobent donc les phlébites, les embolies et les AVC. On a très récemment entendu parler de plusieurs cas de cette même famille d'accidents vasculaires avec le vaccin AstraZeneca qui a depuis été interdit en France pour les moins de 55 ans. Éléonore, vous avez écrit plusieurs articles sur le sujet. Est-ce qu'on a une bonne idée des chiffres de ces accidents présumés liés à la pilule ?
Alors, les chiffres que publie donc l'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est 2500 accidents thromboemboliques chaque année liés à la contraception et 20 décès par an.
Donc ça, ce sont des chiffres officiels voilà. D'une agence gouvernementale.
Ce que disait Madame Martin, effectivement, tout à l'heure, c'est donc les pilules de deuxième génération qui doublent le risque de faire une thrombose. celles de troisième et quatrième génération qui multiplient par 4 le risque de faire une thrombose. Et on peut aussi relativiser en fait avec la grossesse, où le risque de faire une thrombose pendant la grossesse est multiplié par 10. Effectivement, ce sont des effets secondaires rares, mais ce sont quand même des effets secondaires graves qui peuvent aboutir à des handicaps, comme c'est le cas de Marion Lara, ou à des décès. Par rapport aux chiffres aussi, peut-être un biais, en tout cas ce que j'ai pu voir en écrivant mes différents papiers, c'est qu'en fait, ce sont des données qui seront remontées par la pharmacovigilance. Ce sont des signalements qui sont faits soit par les patients, soit par les médecins eux-mêmes. Et en fait, aujourd'hui, on estime que ces signalements, ils sont de l'ordre de 1 sur 10. C'est-à-dire que pour 10 cas, il y en a un seul qui est remonté. Il y a sûrement plus d'accidents, en fait. Le problème, c'est qu'il faut que les patients sachent aussi que la pharmacovigilance existe et qu'ils peuvent eux-mêmes faire un signalement en se rendant sur le site internet. Et que les médecins aussi prennent le temps de faire ce signalement. Et dans mon cas, en fait, moi, j'ai été suivie par un gynécologue, des médecins généralistes quand j'ai eu ma phlébite, qui n'avait pas alors diagnostiqué la phlébite, parce que j'ai eu un retard de diagnostic, par un cardiologue, et enfin par une médecin en médecine interne à l'hôpital. Et en fait, jamais personne ne m'avait parlé de la pharmacovigilance. Et c'est cette médecin, en fait, qui m'a dit « je vais faire », elle m'en a informée, en fait, en me disant « je vais faire remonter votre cas à la pharmacovigilance ». Mais je pense que si elle ne l'avait pas fait, les médecins, les 4 médecins que j'avais vus précédemment, en fait, ne l'auraient pas forcément fait remonter, en fait. Donc, il faut y penser et il faut prendre le temps de le faire. Visiblement, ce que me disaient les médecins, ça prend une dizaine de minutes, donc c'est pas très long. Mais quand même, voilà, ça nécessite de se donner la peine de faire ces signalements.
Et est-ce qu'il y a une estimation, du coup, de la sous-estimation des chiffres ?
Ce que m'a dit une personne de la pharmacovigilance dans la région dans laquelle je travaille en Franche-Comté, donc c'est 1 cas sur 10 qui est remonté.
Un cas sur 10, donc ça veut dire qu'il y a 9 cas qui passent en dessous des radars, quoi.
Sûrement. Après, on ne sait pas, parce que voilà, c'est des estimations.
Par définition.
Voilà. Ouais. Après, c'est le cas, évidemment, pour la pilule, mais aussi pour les autres médicaments. Hein. C'est pas propre à la pilule. Il faut pas non plus imaginer que c'est... voilà, c'est un phénomène de masse qui serait caché et enfoui, c'est pas ça.
L'idée, c'est pas bien sûr de diaboliser la pilule, qui est un outil émancipateur pour les femmes. Caroline Martin, à quoi doit-on être particulièrement vigilante en tant que femme lorsqu'on est sous pilule de 3e et 4e génération ? Quels sont les signes avant-coureurs à surveiller quand on est sous ce type de pilule ?
Je pense qu'il faut même le dire pour les deuxièmes générations, une patiente sous pilule œstroprogestative, on peut l'informer que si elle a une grosse jambe rouge, douloureuse, ou si elle est d'un seul coup une sensation d'oppression thoracique, une gêne à respirer et une douleur, qu'elle puisse consulter son médecin et informer qu'elle est sous pilule. Au même titre qu'on les prévient en général que si... toujours dans la même idée que quand on associe les risques, le risque est plus important, de prévenir la patiente que si pour une raison X ou Y, elle doit être alitée parce qu'elle se fait opérer ou tout simplement parce qu'elle a la jambe cassée et que du coup, il n'y a plus d'appui. Dans ces cas-là, c'est important qu'elle signale au médecin qu'elle prend une pilule œstroprogestative puisqu'en fait, le fait qu'il y ait une immobilisation augmente le risque de faire un caillou, indépendamment de la pilule. Mais comme on sait que la pilule peut augmenter un petit peu le risque, effectivement, c'est important de le signaler. Effectivement, il ne faut pas diaboliser les pilules parce qu'on le sait que c'est quand même un outil important pour les femmes. Et voilà, les femmes se sont battues pour avoir accès à la contraception, donc je pense que c'est important. Après, il faut avoir à l'esprit que c'est une méthode de contraception parmi d'autres, mais qui effectivement correspond à bon nombre de femmes. Mais ça, il faut-il encore en avoir échangé avec elles et trouver la bonne méthode de contraception et avoir en tête les contre-indications effectivement qui font qu'on ne va pas prescrire une pilule. Mais je vous rejoins sur le fait que pendant une grossesse, le risque de faire une thrombose est encore plus important qu'une prise de pilule. Donc il faut quand même rassurer les patientes aussi sur le fait que ce risque est faible et que c'est pour ça que la prise doit être encadrée, c'est-à-dire que ça passe d'abord par un interrogatoire précis, un examen clinique précis, un contrôle à 3 mois. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce risque, en fait, est plus important la première année de prise et qu'en fait, ce risque, à chaque arrêt de pilule, si on recommence un mois après, ce risque repart à zéro et le risque est à nouveau plus important pendant un an. Donc, l'idée de dire, je prends un peu la pilule, je l'arrête, je la reprends, je l'arrête, c'est pas forcément une bonne idée puisque le risque, en fait, est plus important.
Éléonore Tournier, c'est justement ça qui s'est passé dans votre cas. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement le moment où tout a basculé?
Donc oui, effectivement, j'avais, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'avais enchaîné plusieurs pilules. Donc la dernière pilule qui a été prescrite, j'ai fait mon accident donc 4 mois après. C'est vrai que effectivement, la professeure de médecine interne m'avait expliqué que c'était la première année, en fait, après la première prise de pilule, que le risque était majoré en fait de faire un accident. Donc effectivement, si on change de pilule, le risque en fait repart à zéro. Enfin, on repart à zéro. On a autant plus de risque la première année de faire un accident thromboembolique. C'est au bout de 4 mois de prise que cet accident s'est déclaré.
Et qu'est-ce qui s'est passé en fait?
J'ai eu une douleur au mollet après une séance de sport. Donc c'est intervenu après une séance de sport. Donc au début, je me suis dit que c'était un claquage. Sauf que la douleur ne passait pas. J'ai fini par aller voir mon médecin généraliste qui m'a ausculté de manière assez sommaire et qui m'a dit « Oui, tu t'es sans doute fait un claquage, pas d'inquiétude. » Sauf que la douleur est devenue de plus en plus forte à me réveiller la nuit, en fait. Puis c'était vraiment une douleur très particulière qui me fatiguait. En fait, ça me fatiguait beaucoup. Partant sur l'idée d'un claquage, j'étais allée voir un médecin du sport qui, à l'époque, m'avait dit « Bah oui, ça ressemble à un claquage. J'avais pas encore la jambe enflée. » Il m'avait prescrit une échographie du mollet que j'ai faite et qui a également conclu à un claquage en l'absence d'hématome.
Alors que le claquage est normalement
accompagné d'un hématome. Mais bon, je pars sur ce diagnostic. Mais en fait, la douleur ne passe pas et je me mets à boiter. En fait, j'arrivais plus du tout à marcher. Et en fait, je vois une amie qui me dit, qui est infirmière, et qui me dit « Moi, je pense que tu fais une phlébite. Tu devrais aller aux urgences. Un claquage, ça ne dure pas aussi longtemps. Ça ne correspond pas. » Mais je fais confiance au médecin que j'ai vu. Donc, je ne m'alarme pas plus que ça. Ma maman aussi voit ma jambe. Pour le coup, moi, j'avais la jambe blanche, mais je pense parce que le sang ne circulait plus dans la jambe, et un peu enflée. Et elle me dit « Ouais, ta jambe n'est pas belle, il y a un problème, retourne voir le médecin. »
Parce que le symptôme habituel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est une jambe gonflée et plutôt rouge.
Plutôt rouge, chaude et inflammatoire.
Ouais, ce qui n'était pas mon cas. Aussi, j'ai fait un malaise, en fait, en montant les escaliers. L'impression, en fait, d'une fatigue énorme, et puis d'avoir le souffle un peu court. J'ai pris ma température, j'avais 38. Donc un petit fébricule, ce qu'on appelle un fébricule qui, je l'ai su après, était symptomatique des embolies pulmonaires. Donc là, je me dis, je vais retourner voir mon médecin. C'était assez compliqué parce que mon compagnon de l'époque, j'étais très inquiète et lui est très très rationnel et me disait, mais arrête, le médecin a dit que c'était un claquage, tu te fais des idées, tu t'inquiètes trop. Donc j'en venais même à me dire, est-ce que je suis pas folle en fait?
Est-ce que j'exagère?
Est-ce que j'exagère? Mais je sentais vraiment intérieurement que j'avais un problème. Et donc je suis retournée voir Alors mon médecin généraliste était en vacances, c'était un autre médecin. Et là en fait je lui dis, j'ai peur de faire une phlébite. Je lui dis mes antécédents, ce que j'ai fait en étant petite, les anticorps antiphospholipides, que je prends la pilule, que j'ai peur de faire une phlébite comme une embolie, comme ça a été le cas de Marion Lara, sauf qu'elle c'était un AVC, mais voilà, j'évoque ça, et il me dit « Oui, il ne faut pas croire ce que disent les médias. » Pour lui, il n'y avait rien de particulier, et en fait, je lui demande un échodoppler, parce que j'en avais discuté avec mon amie qui était infirmière, donc c'est moi qui lui demande « Faites-moi faire un échodoppler », et il me dit « Il n'y a pas d'urgence, il me prescrit, voilà. »
Il accepte quand même de prescrire,
oui,
mais en disant « c'est pas une
urgence ».
En disant «
c'est pour vous rassurer, en fait. » Voilà, c'est pour vous rassurer. Donc j'avais vraiment l'impression d'être...
D'exagérer,
ouais, voilà. Il a dû penser que j'étais inquiète, mais je l'étais à juste titre quand même. J'ai eu un rendez-vous assez rapide, je crois que c'était 2 jours plus tard. Donc en tout, ça a duré 10 jours. Et donc je me rends faire cet échodoppler. Donc l'échodoppler, c'est un examen qui permet de visualiser en fait les veines. Et là, le médecin ne dit rien et il me dit « Est-ce que vous avez fait des malaises dernièrement ?» Donc je lui dis « Bah oui, j'en ai fait un il y a 2 jours, j'arrivais pas, j'avais le souffle court. » Et il me dit « Vous ne bougez plus et vous avez un caillot, en fait, vous faites bien une phlébite. » Donc j'étais en fait jusqu'en haut de la cuisse, j'avais la veine bouchée. Et il me dit « Vous faites sûrement une embolie pulmonaire, vu vos malaises. » Voilà. Et en fait, je me suis mise à pleurer. Mais à pleurer, j'ai relâché toute cette tension. Et il me dit « Mais vous inquiétez pas, vous allez être prise en charge, ça va aller. » Et je lui ai dit « Mais ça n'est pas... je pleure pas parce que j'ai peur. Ou... je pleure parce qu'en fait, ça fait 10 jours que j'ai mal. » Ça fait 10 jours que je partage mon angoisse et que je dis les choses et qu'en fait, on ne m'écoute pas. Et donc après, voilà, je suis partie aux urgences, aux soins intensifs. Et je me souviens aussi, quand je suis arrivée aux soins intensifs, qu'une personne m'avait dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus de jeunes en cardiologie ?» Et elle disait « Tabac, pilule. » Voilà. Et je me souviens aussi que dès que je suis arrivée, la première chose qu'on m'a demandé, c'est « Est-ce que vous êtes sous pilule ?» Donc là, j'ai répondu oui. Et ils m'ont dit « Bon, bah, la pilule, maintenant, c'est terminé. »
Et donc, en termes de séquelles ?
Alors, en termes de séquelles, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas de séquelles. Enfin, j'en ai aucune.
Donc, c'était quand même une embolie aux deux poumons ?
Voilà, une embolie bilatérale. Donc, c'est-à-dire que les deux poumons étaient touchés. Donc, j'ai eu un traitement d'héparine. C'est ce qu'on appelle un anticoagulant pendant 6 mois. J'ai refait des analyses.
Qui fluidifie le sang ?
Voilà, qui fluidifie. J'ai refait des analyses de sang. Donc, après, tout était normal. Donc, j'ai arrêté ce traitement. Pendant les grossesses, donc qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, des périodes où le risque est majoré x10, là, j'ai un traitement à prendre anticoagulant pour éviter le risque de faire un caillot. Sinon, non, j'ai aucune séquelle. Alors, peut-être des séquelles un peu psychologiques, on va dire, dans le sens où j'ai énormément de mal, désormais, à faire confiance aux médecins que je rencontre, du fait qu'on ne m'ait pas cru et qu'on n'ait pas écouté, en fait, ce que je disais.
Donc, la problématique à laquelle vous avez fait face, c'était que les médecins n'étaient pas forcément à l'écoute, ou en tout cas, ont minoré les symptômes que vous décriviez. C'est un retard de diagnostic, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, Madame Martin.
Oui, tout à fait.
Qui aurait pu, du coup, avoir des conséquences graves. Et vous n'êtes pas, en fait, la seule dans ce cas-là. C'est aussi ce que décrivent les autres victimes, notamment de l'association AVEP, qui milite pour faire reconnaître ce lien entre ce type d'accident vasculaire et la pilule.
Alors, c'est ce que j'ai découvert en faisant les différents papiers que j'ai fait suite à mon accident, et notamment en contactant l'AVEP. C'est que beaucoup de femmes qui ont fait des embolies pulmonaires ont été diagnostiquées tardivement, et beaucoup de médecins, en fait, mettent sur le compte de l'angoisse,
le ressenti.
C'est-à-dire que, en plus, l'embolie pulmonaire, c'est vrai que c'est particulier dans le sens où on se sent oppressé, on est angoissé. Parce qu'il y a cette angoisse de mort, en fait, hein, je pense, le fait de ne pas pouvoir respirer correctement. Voilà, les médecins peuvent mettre sur le compte de l'angoisse ce genre de symptômes. Après, ce que j'ai découvert aussi en interrogeant des professeurs en médecine, notamment une professeure qui est neurochirurgienne, elle me disait que pour l'AVC, des études ont montré que l'AVC était moins bien pris en charge pour les femmes, parce qu'en fait, on avait dans l'esprit que les femmes faisaient moins d'AVC que les hommes, ou en tout cas plus à des âges plus avancés, alors qu'aujourd'hui, on sait que justement l'association tabac-pilule créer ce genre de pathologie. Il faut l'avoir à l'esprit, en fait, que des femmes jeunes peuvent faire ce type d'accident, ce qui, je pense, pour certains médecins, n'est pas encore forcément bien ancré. Et ensuite, pour l'AVC, comme pour la crise cardiaque, en fait, hein, les manifestations, les symptômes ne sont pas les mêmes que chez les hommes. Donc, c'est pour ça que parfois, les médecins passent à côté. En tout cas, il y a un retard de diagnostic sur les AVC, notamment par rapport aux hommes, oui.
Madame Martin, sur le parcours d'Éléonore Tournier, est-ce que vous, en tant que médecin, vous vous dites il y a quand même eu quelque chose qui n'est pas tout à fait normal là-dessus ? Je ne vous demande pas de commenter le travail de vos confrères, mais dans l'idée, est-ce que pour vous, les signaux étaient quand même assez clairs ?
C'est jamais simple à distance. Après coup, une fois qu'on a le diagnostic, c'est toujours forcément plus évident. Après, je rejoins l'embolie pulmonaire, c'est pas toujours des signes très francs, très simples. La douleur dans le mollet, effectivement, surtout quand on est dans un contexte de sport, c'est pas forcément évident. Après, c'est vrai que 10 jours, c'est un peu long, surtout au vu des antécédents, des anticorps antiphospholipides, effectivement, s'il y a réel. Enfin, ça aurait dû alerter dès la prescription de la pilule à la rigueur, mais.
Éléonore Tournier, je reviens vers vous sur les demandes en fait qui sont portées par les victimes et par leur association l'AVEP. Quelles sont les revendications à l'heure actuelle des victimes, puisqu'on disait tout à l'heure que l'idée c'est pas de diaboliser la pilule, c'est pas de encore moins de l'interdire évidemment. Quelles sont ces revendications ?
Alors non, effectivement, c'est pas de diaboliser. Je suis pas anti-pilule et l'association AVEP, pour en avoir discuté avec ses membres, ne sont pas anti-pilule. C'est pas ça. C'est un moyen de contraception qui est très efficace. Simplement, c'est le cadre de prescription, en fait, s'assurer qu'on a bien identifié l'ensemble des facteurs de risque et le cadre du suivi aussi. Par rapport à la prescription, alors actuellement, il y a une prise de sang qui est faite, donc je crois que c'est sur la glycémie, le cholestérol et les triglycérides. Ce que porte cette association, c'est de faire un dépistage en fait, des facteurs de coagulabilité du sang, par exemple les anticorps antiphospholipides, en fait, de le faire systématiquement pour chaque femme avant la prescription, en plus de cette prise de sang qui est faite actuellement, pour détecter ces facteurs qui pourraient être une, enfin qui sont une contre-indication en fait à la prise de pilule, parce que souvent les femmes qui font des accidents thromboemboliques, après on leur fait un dépistage, un bilan de thrombophilie, et on découvre en fait qu'elles ont ces anomalies. Donc c'est une prise de sang qui coûte 140 €. Donc les pouvoirs publics en fait opposent souvent le coût de cette prise de sang. Ce que disent les associations de victimes, en fait, c'est que 140 € pour une femme, quand on voit les indemnités en fait, qui sont versées aux victimes quand il y a des accidents thromboemboliques. Dans le cas de Marion Lara, c'est 4,5 millions d'euros, 25 000 euros par an d'indemnisation, donc jusqu'à la fin de sa vie. C'est énorme. Aux États-Unis, je crois que Bayer a versé 2 milliards aux victimes d'accidents thromboemboliques. Donc si on compare ces chiffres, ça reste relativement peu. Après, il y a aussi le volet bien faire ce suivi, la première année, qui est vraiment l'année où le risque est majoré. Et puis dans les écoles aussi, au niveau de l'éducation sexuelle, évoquer l'ensemble, le panel des dispositifs de contraception et les risques qui sont associés à chaque dispositif. Et puis aussi, il y a quand même le côté recherche. Peut-être développer un peu plus la recherche aujourd'hui, notamment du côté masculin. Ça fait des années et des années qu'on parle d'une pilule contraceptive pour les hommes. Bon, on en entend parler toujours et toujours, mais on la voit pas venir. Donc peut-être aussi essayer de trouver de nouveaux moyens de contraception.
Alors justement, sur ces alternatives à la pilule, quelles sont celles que vous présentez, vous, en consultation, Caroline Martin, quand vous recevez une femme qui vous demande une contraception ?
Alors on présente l'ensemble des méthodes de contraception. Donc effectivement, la pilule œstroprogestative, la pilule à progestative seule. On parle bien évidemment avant tout aussi du préservatif, en rappelant bien que c'est le seul moyen qui protège aussi contre les IST. On parle des moyens comme le stérilet, qu'on appelle d'ailleurs plus normalement stérilet, mais dispositif intra-utérin, parce que justement stérilet, ça renvoyait trop à l'image de stérilisation stérile. Et pendant un temps, on disait qu'il fallait pas mettre de stérilet à une patiente qui n'avait pas eu d'enfant, parce qu'il y a des risques d'infection et de stérilité. Donc c'est vrai que ce mot, on l'a banni, mais les gens parlent quand même encore spontanément plus de stérilet que de dispositif intra-utérin. On parle de l'implant, qui est un petit dispositif qu'on met au niveau du bras. On parle des moyens des spermicides, de l'anneau vaginal, du patch, du diaphragme, enfin voilà, toutes les contraceptions qui existent.
Justement, sur le stérilet, il y avait, Éléonore Tournier, vous avez vécu ce moment où un médecin dit à une femme qui n'a pas encore eu d'enfant, refuse en fait de poser ce dispositif. Est-ce que ça, c'est une vision qui évolue aussi du côté des médecins et des soignants ?
Oui, ça a totalement évolué. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on pouvait dire, on avait tendance à dire, c'était assez simple, basique, en début de vie sexuelle, on part sur une pilule, ensuite la patiente a ses enfants, après ses enfants, on met un stérilet, et puis celle qui ne comprend pas trop comment on prend la pilule, on lui met un implant. C'était un petit peu l'idée il y a quelques années de ça quand même. Maintenant, on n'est plus du tout dans ces idées-là, il n'y a pas de schéma type, et en fait, l'idée, c'est vraiment de reprendre avec la patiente son souhait, le mode de contraception qui pourrait lui convenir le mieux. Et effectivement, avant, on avait peur de mettre des stérilets chez des patientes dites nullipares, c'est-à-dire qui n'avaient encore pas eu d'enfant, par rapport au risque infectieux. Maintenant, les études montrent qu'il n'y a pas plus de risque infectieux chez une patiente qui a un stérilet ou qui n'en a pas. La seule précaution, c'est au moment de la pose du stérilet, de bien vérifier et de faire un prélèvement pour vérifier que la patiente n'a pas un chlamydia. Donc, c'est une IST, c'est une infection bactérienne, donc qui se transmet par voie sexuelle et qui peut effectivement entraîner une stérilité secondaire, parce que du coup, ça entraîne une infection au niveau des trompes. Donc la seule précaution quand on pose un stérilet chez une patiente, c'est de vérifier avant qu'il n'y a pas d'infection par chlamydia. Et ensuite, on peut poser le stérilet même chez une patiente qui n'a pas eu d'enfant. Après, le stérilet n'est pas forcément une méthode qui peut convenir à tout le monde. Il faut quand même que la patiente soit suffisamment à l'aise avec son corps. C'est quand même un geste un petit peu invasif. Donc chez des patientes jeunes, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus souvent de demandes de patientes jeunes qui viennent pour une pause justement de stérilet.
Parce que justement, donc vous disiez à l'instant, là c'est le choix de la patiente en fait qui prime sur les idées ou les conseils du médecin. Est-ce que ça veut aussi dire que les patientes plus jeunes aujourd'hui sont mieux informées peut-être, ont moins envie de ces hormones ? Est-ce que vous voyez une évolution de ce côté-là ?
Alors, sur le stérilet, je remets juste, il y a deux stérilets. Il y a un stérilet avec hormones et un stérilet sans hormones. Donc, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir les deux en tête. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'échanges entre elles. Enfin, elles en discutent plus facilement, je pense, entre elles. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de sites, macontraception.fr, qui reprend toutes les contraceptions, qui explique les différentes contraceptions possibles. Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'informations maintenant et je pense que le débat pilule, enfin la polémique qu'il y a eu sur les pilules 3e et 4e génération a amené justement ce débat et l'ouverture à d'autres méthodes de contraception possibles.
Qu'en est-il de la contraception masculine? Parce que, donc, Éléonore Tournier, vous disiez tout à l'heure que la recherche sur la pilule masculine est quand même plus ou moins arrêtée à cause justement des effets secondaires qu'elle entraîne, qui sont quand même relativement similaires à ceux de la pilule contraceptive pour les femmes. Mais on reviendra pas sur ce débat-là. Mais il y a des contraceptions masculines qui existent, alors qui sont non invasives, en fait, pas internes, qui ne sont pas des médicaments, qui sont plutôt des anneaux ou des ce qu'on appelle le slip chauffant, en fait, qui est une action mécanique de... Vous allez peut-être l'expliquer mieux que moi, en fait.
Alors effectivement, avant tout, il y a quand même le préservatif qui est une contraception masculine, sachant qu'il existe aussi des préservatifs féminins qui protègent aussi des IST. Donc, c'est quand même important aussi que les patientes sachent qu'elles peuvent utiliser un préservatif pour elles si leur conjoint n'en veut pas, leur partenaire n'en veut pas. Et au niveau des méthodes masculines dites mécaniques, il y a effectivement le slip chauffant ou l'anneau pénien. L'idée, c'est de dire qu'en fait, les testicules sont extracorporels parce qu'à 37 degrés, les spermatozoïdes ne peuvent pas se développer. Et donc, l'idée du slip chauffant, en fait, c'est une contraception dite thermique. Et l'anneau pénien, c'est pareil, c'est-à-dire que la façon dont on met l'anneau fait que les testicules sont remontés et sont du coup en intracorporel. Et donc, du coup, il ne peut pas y avoir de développement des spermatozoïdes. Après, ça implique de porter le slip au moins 15 heures par jour ou l'anneau au moins 15 heures par jour pour qu'il soit efficace.
Donc c'est ça, pour l'instant, c'est encore des balbutiements de ces méthodes-là. Ça pose aussi la question de l'implication des conjoints et des partenaires, parce que la charge mentale de la contraception est quand même souvent encore l'apanage des femmes. Est-ce que vous voyez, vous, dans les consultations que vous menez, des conjoints qui s'associent, qui sont un peu plus conscients qu'ils peuvent avoir une part de responsabilité aussi dans la contraception dans le couple ?
Oui, effectivement, on voit plus souvent maintenant, je trouve, de patientes accompagnées de leurs partenaires pour discuter contraception. Alors, comme j'ai pu le dire, c'est vrai qu'en centre de planification, on ne prescrit pas. Et je ne pense pas que j'ai beaucoup de collègues qui prescrivent la contraception masculine, que ce soit le slip chauffant ou l'anneau pénien, parce qu'il y a quand même des contraintes. Ce n'est pas remboursé. Enfin, on pourra revenir sur la contraception masculine après. Mais par contre, qui sont quand même plus impliqués. Et on essaye, dans tous les temps d'animation scolaire, parce qu'une partie dans les centres de planification, il y a donc à la fois des conseillères conjugales et des médecins ou sages-femmes. Les conseillères conjugales ont leur rôle au sein des centres de planification dans l'accueil des patientes, mais elles ont aussi un rôle très important d'information et d'animation qu'elles font dans des établissements scolaires ou extrascolaires. Et donc, c'est des choses qu'elles évoquent, en fait, la place de l'homme dans la contraception. Et au niveau des centres de planification, sinon, quand on a mis en place des questionnaires types par rapport au dépistage des IST, et c'est vrai qu'il y a une des questions où c'est « Savez-vous si votre partenaire a une contraception ?» Alors, ça ne changera rien sur le type de dépistage qu'on fera, mais ça permet du coup un peu d'ouvrir le débat. Et quand la réponse est non, de leur dire si vous ne mettez pas de préservatif et que votre partenaire est enceinte, vous êtes tout autant responsable qu'elle. Effectivement, pour les amener un petit peu à réfléchir sur leur place et leur rôle aussi dans le choix de contraception.
Et donc ça passe effectivement aussi par l'éducation, vous le disiez à l'instant. Donc les centres de planification, vous avez aussi ce rôle-là d'information du côté des jeunes scolaires notamment. Comment est-ce que ça se passe, vos interventions ? Ce sont des interventions dans les écoles, je crois ?
Dans les collèges, lycées, mais ça peut être aussi dans d'autres établissements, dans les MFR, enfin dans d'autres établissements. Mais là, si on parle plus au niveau des jeunes, donc plus au niveau du collège et des lycées. En fait, il faut savoir que dans les collèges et lycées, il y a une obligation de formation, un certain nombre d'heures, plusieurs séances par an, sur l'information à la vie sexuelle et affective. Ça peut être fait par l'infirmière scolaire, ça peut être fait par un professeur de sciences, ou ça peut être fait, on peut faire appel justement à des services extérieurs tels que les centres de planification et aux conseillères conjugales.
Est-ce que vous voyez là aussi un intérêt, une évolution chez les jeunes ? Est-ce qu'ils sont mieux informés ? Est-ce qu'ils posent plus de questions ? Ou est-ce que vous avez, vous aussi, toujours ce travail important d'éducation sexuelle ?
Je pense que le fait qu'on démocratise ces informations, c'est effectivement important. C'est important, oui, de pouvoir à la fois parler de contraception, parler d'IST auprès des jeunes. Et je pense qu'effectivement, l'information est quand même plus importante via aussi les médias, les réseaux sociaux. Après, je pense que c'est important justement qu'il puisse y avoir aussi une parole, je dirais pas d'expert, mais voilà, au moins de professionnels du domaine pour pouvoir justement
apporter les bonnes connaissances.
Voilà.
On arrive au terme de ce podcast. Un très grand merci à vous, Éléonore Tournier et Caroline Martin, d'être venues nous apporter votre éclairage sur ce sujet. Il ne me reste plus qu'à rappeler que ce podcast est produit par l'association Babes Voices en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci aussi à Clémence, Sarah et Thibaut pour leur aide précieuse pour l'enregistrement et le montage de ce podcast. À bientôt dans le F-Club.